Je vous invite à aller dans l'Évangile selon Matthieu ce matin, au chapitre 16. On va lire un passage un peu long. Alors, quand je me suis dit, mais j'aurais pu reprendre le message de la semaine dernière, mais d'autant plus que... Mais bon, pour une personne, hein, il faut pas... Tu pouvais pas être malade, hein? Non, comme ça, vous pourrez écouter ça sur comment, l'enregistreur. On va aller dans Matthieu. En fait, c'est assez proche parce que la dernière fois, on a vu une confession de Pierre et aujourd'hui, on va voir une confession de Pierre. Mais dans Matthieu 16, on va lire du verset 13 à 28 et on va regarder trois paroles. Bon, il fallait trouver un titre. Mais Matthieu 16, on va commencer au verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui suis-je, au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dire: À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: Arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de Dieu venir dans son règne. Alors, nous avons donc un passage qui est long ce matin, et cela veut dire d'emblée que on va pas être en mesure de regarder tout le passage, mais simplement, il va falloir être sélectif, choisir des aspects du passage, et cela veut dire qu'il y a un certain côté artificiel. Hein, on a lu comme ça, on peut voir, quand on lit la Bible, au contraire de beaucoup de livres, quand on lit la Bible, en fait, souvent, on peut pas simplement la lire, mais on la voit, on voit ce qui se passe. Alors ici, le texte décrit un moment important dans la vie du petit groupe des disciples. Hein, on parle des 12, là, des apôtres. Et c'est un moment important. Jésus entreprend maintenant de le révéler de manière plus précise, de se révéler à eux de manière plus précise. Alors, ils connaissent Jésus, ils ont déjà vu des tas de choses, mais maintenant Jésus va entrer de manière beaucoup plus précise, dans ce qu'il est, qui il est et ce qu'il vient faire. et déjà on l'a vu dans la lecture, non seulement il leur dit qu'il est le Messie, mais il leur montre quel genre de Messie il est. Alors à l'époque, de dire qu'on était le Messie, normalement, ça voulait dire qu'on allait être mis à mort, lapidé. Parce que, quand même, ça voulait dire qu'on était envoyé de Dieu. Mais il y a beaucoup de gens qui l'avaient fait. Il y en avait qui étaient partis un peu dans le désert, ils avaient entraîné des tas de gens à leur place. Mais Jésus, maintenant, il va leur dire qu'il est le Messie et quel genre de Messie il est. Et aussi, il enseigne quel genre de disciples ils seront, eux. Parce que les disciples, enfin même les douze, là, ils arrivent, ils ne comprennent rien du tout. Rien du tout. Pour commencer, il y a la question de Jésus. Que disent les hommes à mon sujet? Suivie de la confession de Pierre. Elle-même est suivie de la réponse de Jésus. Donc, vous voyez, on a une certaine progression. Et puis, ensuite, on voit l'annonce par Jésus de ce qui doit lui arriver dans le cadre de sa mission messianique. Il est le Messie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et il l'explique. Et alors, Pierre intervient sous l'influence du diable. Et Jésus lui répond ou le remet en place de manière cinglante. Et ensuite, il donne un enseignement très court mais très plein sur la nature de la vie du disciple. Donc voilà, en gros, c'est le plan du passage. Alors on pourrait passer des mois et des mois là-dessus, rien que sur ce passage. Mais on va regarder en premier la question. Qui dites-vous que je suis? Alors Jésus commence par poser une question de façon anodine, il semble. Il dit: qu'est-ce que les hommes pensent que je suis? C'est comme ça, très simple. Alors, il est très clair que sa question, elle sert seulement de préambule. C'est simplement une introduction à une question plus directe qu'il pose après, à ses disciples eux-mêmes. D'ailleurs, quand les disciples commencent à dire ce que les hommes pensent que Jésus est, Jésus ne remarque même pas la chose. Il ne répond pas. Il ne commente pas. Ce qu'il veut leur faire dire, c'est ce que eux-mêmes disent qu'il est. Ce qu'il est. Et nous avons plusieurs choses ici. La première chose à souligner, c'est que Jésus ne laisse pas indifférent. On a besoin de le dire parce qu'aujourd'hui, il semble que la vie courante se passe sans Jésus. Il est, certains diraient, quelque chose qui n'a pas de... c'est français, irrélevance? Non, c'est pas français ça, mais vous me comprenez. C'est quelque chose qui n'a... Il n'y a rien à faire dans la vie, hein, on peut passer sa vie sans lui. Mais Jésus ne laisse pas indifférent. On parle de lui, c'était vrai à cette époque, et c'est vrai aujourd'hui, même dans les sociétés comme la nôtre qui se disent, soi-disant, laïques. Dès qu'un leader religieux dit quelque chose, fait quelque chose, tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Ce n'est pas simplement une question de religion. C'est parce que Jésus ne laisse pas indifférent. Mais, et c'est une chose importante à écouter, mais si on parle de Jésus aujourd'hui, on dit n'importe quoi à son sujet. On dit n'importe quoi. Ce que je veux dire ici, c'est que, en fait, les réponses, à l'époque et maintenant, sont des supputations plutôt qu'une connaissance prouvée. Ce sont des idées basées sur des oui-dire. Vous voyez, il dit, mais qu'est-ce que les hommes pensent que je suis? Alors, les disciples lui disent, il y en a certains qui pensent que tu es Jean-Baptiste. Mais personne n'est venu demander à Jésus s'il est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste ramené d'entre les morts, puisqu'il a été décapité. Donc Jean-Baptiste est mort, maintenant voilà Jésus. Il y en a qui pensent que c'est Jean-Baptiste qui est revenu à la vie, parce qu'on parlait beaucoup de la résurrection à l'époque. Il y en a d'autres qui disent que c'est Élie. Alors, il tire ça de l'Ancien Testament, parce qu'il était annoncé que Élie reviendrait. Mais Jésus très clairement a dit qu'en fait, Jean-Baptiste est cet Élie qui doit venir, mais il y a plus grand que lui, vous voyez. Et il y en a d'autres qui disent que c'est Jérémie. Il y en a même qui disent que c'est un prophète, parce que Moïse avait annoncé qu'il y avait un prophète qui devait venir. Et c'était lui qu'il fallait écouter. Donc, vous voyez, c'est simplement des oui-dire. Les gens parlent de Jésus, personne n'est laissé indifférent, mais personne ne sait vraiment non plus. Et on peut remarquer aussi une autre chose, c'est que tous les noms qui sont cités ici sont des noms de grands serviteurs de Dieu, que Dieu a utilisés dans leur temps et qui seraient, d'une manière surnaturelle, revenus à la vie pour ouvrir le vrai chemin. Il y a dans chaque cœur une connaissance innée, une connaissance qui est là, impossible de l'enlever, que les choses ne vont pas bien et que la solution doit venir du dehors. Alors on cherche, on essaie de croire aux promesses des politiques par exemple, on cherche à se dire que peut-être on va mieux faire la prochaine fois et ainsi de suite. Mais on sait au plus profond de soi que finalement la solution n'est pas en nous, la solution n'est pas dans ce monde, elle doit venir de la divinité. Quel que soit le sens qu'on donne au mot, à ce mot de divinité, et donc on peut dire qu'on parle de Jésus. On parle de Jésus. Et par exemple, on va le voir quand on va auprès des gens ou quand on rencontre les gens dans la vie courante et ils nous demandent ce qu'on croit ou on peut parler de Jésus. Et alors, tout de suite, on a une réaction. Alors, si par exemple on parle du Père Noël, on va nous faire comprendre peut-être qu'on laisse croire aux enfants, vous voyez. Donc, il faut être... Mais il n'y a pas de dispute. Hein, parce que tous les adultes savent que... Non, il n'existe pas. Mais Jésus, c'est différent. Donc, vous voyez, on parle de Jésus. Et comme je l'ai fait remarquer, cette réponse-là ne suffit pas pour Jésus. En fait, il a simplement commencé la discussion, là, comme ça. Mais lui, il presse maintenant personnellement ses disciples. Il a dit, mais... Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Qu'est-ce que les gens pensent que je suis? Et maintenant, il dit, mais qui dites-vous que je suis? Il s'adresse directement à ses disciples. Et là encore, on a plusieurs leçons à tirer. Des perspectives générales, des idées générales au sujet de Jésus ne suffisent pas. Et pourtant, beaucoup s'en contentent. Mais pas Jésus. Pas Jésus. Il demande à chacun de se positionner. Et on peut se demander, est-ce que nous l'avons fait? Qu'est-ce que nous disons qu'est Jésus? Il n'y a pas de position neutre, bon, moi, de toute façon, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Hein? Aujourd'hui, il y a des agnostiques, des gens qui ne savent pas. Autant qu'il donne le vrai nom, le vrai mot, hein, c'est ignorant. Non, ça ne suffit pas. Jésus est-il pour moi plus que ce que les gens en disent? Ça, c'est la question qui se pose à chacun d'entre nous. Et il est bon régulièrement de nous la reposer, si on se l'est posée. L'autre chose à souligner ici, c'est que Jésus ne demande pas aux disciples qui il pense qu'il est. Qui dites-vous que je suis? Et c'est important parce qu'il y a là l'idée d'engagement. Il faut montrer ses couleurs. Nous ne sommes pas simplement invités à avoir des idées au sujet de Jésus, quelque chose qui est là dans le registre des connaissances. Non, 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 non. Vous avez vu qui est telle personne? Alors donc, il nous incombe, il nous revient de croire en lui et, bien entendu, de le confesser, c'est-à-dire de parler de lui. Qui dites-vous que je suis? Alors, c'est là qu'on peut se poser la question. Est-ce qu'on est des théologiens de salon, on pourrait dire, ou est-ce qu'on est des disciples? Vous voyez la différence? Celui qui parle simplement de connaissance au sujet de Jésus, il n'est pas impliqué. Mais le disciple, la base du mot disciple, c'est quelqu'un qui suit pour apprendre. Donc il y a un engagement. Et par exemple, ces 12-là, ils sont auprès de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sur le bateau, sur le lac, en train de pêcher, par exemple, pour certains d'entre eux. Ils ont dû tout laisser pour le suivre. Et c'est très important à garder à l'esprit. Nous avons besoin d'être engagés. C'est-à-dire qu'il y a une réponse par rapport à Jésus. Alors, tout à l'heure, on a chanté que Jésus tapait à la porte de notre cœur. Bon, ça, ce n'est pas tout à fait vrai, dans ce sens-là. Mais quand même, il demande un engagement. Il ne peut pas s'agir de quelque chose qui est là en dehors. C'est quelque chose qui prend mon cœur. Et c'est là qu'intervient la merveilleuse confession de Pierre. Nous lisons, là, regardez au verset 15. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Et Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Alors aujourd'hui, ça nous semble des belles paroles. Mais c'était des paroles qui sont empreintes d'une grande vérité et il faudrait les prendre simplement pour tout un message. Mais c'est important de regarder quand même que ici, Pierre est un juif du premier siècle. Et pour un juif de reconnaître qu'un autre homme est le Messie, mais le Fils de Dieu, ça c'était quelque chose qui était véritablement inouï. On va le voir dans un instant. Parce qu'on veut se focaliser surtout sur la réponse de Jésus ici. En répondant, Jésus s'adresse à Pierre, car dans tout ce passage-là, il utilise le singulier, la deuxième personne du singulier. Tu es Pierre et tout ça, il parle à une personne. Mais il est clair que cela concerne les autres disciples, ainsi que quiconque est habité avec la même conviction qu'il y a dans le cœur de Pierre. Dans l'esprit de Pierre, on pourra dire, parce que le cœur de Pierre, ça peut prêter à confusion, n'est-ce pas? Mais c'est à tout le monde. Ce que dit Pierre est rempli de beauté, et c'est encore plus ahurissant qu'on peut l'imaginer, quand on réfléchit un peu. Voilà un juif qui affirme que celui qui est en face de lui est le Messie, celui que les Juifs attendent depuis des siècles et des millénaires maintenant. Et que cet homme, ici, devant lui, est Dieu. C'est ça le sens de l'expression « fils de Dieu », c'est-à-dire quelqu'un de la même nature que Dieu. La chose est époustouflante. Examinons la réponse de Jésus. « Quiconque croit et confesse, c'est-à-dire dit du fond du cœur, ce que Pierre vient de dire est, dit Jésus, heureux. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. » Une telle personne est heureuse. Et on a ici un mot qu'on retrouve dans un passage très connu du Nouveau Testament, dans les Béatitudes. Heureux les pauvres, heureux. Et on sait que, bien entendu, ce sont toutes des caractéristiques de ceux qui sont appelés de Dieu. Et ceux qui sont appelés de Dieu sont heureux, bienheureux. Donc voilà, ici nous avons en Pierre un homme qui est transformé, un homme nouveau, un homme spirituel. Comment est-ce qu'on le sait? C'est Jésus qui le dit. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, qui ont planté cette conviction. C'est, dit Jésus, mon Père qui est dans les cieux. Et donc on voit que Pierre est habité par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu parle par lui. Pourquoi? Parce que la chair ne peut pas produire cela. La chair va discuter de certaines choses et tout. Mais ici, c'est quelque chose qui emmène Pierre au-delà de ce qu'il devrait être. La chair reste toujours dans les liens, dans les limites de l'acceptable. Alors que là, ça va beaucoup plus loin. Et, on l'a déjà dit, mais on va le redire, c'est une chose importante à garder à l'esprit, la foi biblique est une révélation. C'est mon Père qui t'a révélé cela, pas la chair ni le sang, pas ce que tu es, toi, Pierre, mais c'est ce que Dieu t'a donné, c'est une révélation. Elle est donnée par Dieu, elle ne vient pas de l'homme. Et je me demande, on peut se demander, est-ce que c'est bien la foi que nous avons? Est-ce que c'est bien cette foi qui nous habite? Quelque chose qui est donné de Dieu, qui ne vient pas de nous. La chose est importante à déterminer, car Jésus continue en parlant du fondement sur lequel il va bâtir l'Église. Alors là, quand il parle d'Église, c'est intéressant, mais il parle en fait de la communauté qui vient du Messie, c'est-à-dire ceux que le Père a donnés au Fils, ceux pour lesquels le Fils est venu. Hein, quand il est venu, il a mis du sang, en quelque sorte, sur les côtés des portes des gens. Là, je parle en images. Hein, mais ce n'était pas les Égyptiens, c'était les Israélites. Donc, c'est important. Il vient et Jésus dit, tu es Pierre, et sur ce roc, il y a un petit jeu de mots avec les mots là, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. C'est-à-dire l'Église est indestructible. Et combien de fois dans l'histoire on a vu l'Église qui était prête à s'éteindre? Et elle est toujours là. Elle est toujours là. Mais voilà ce que Jésus dit. Il dit, voilà, sur ce fondement, je vais bâtir mon Église. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites là-dessus. Et ça amène beaucoup de confusion chez les chrétiens, parce qu'on ne sait pas trop exactement qu'est-ce qui est dit là. On voit qu'il y a des erreurs qui sont venues à partir de cette phrase, et donc il faut essayer de les éviter. Alors, faisons assez simple. Jésus, ici, n'est pas en train d'établir Pierre comme un pape. Pas du tout. Parce que si vous allez au chapitre 18, verset 18, il dit, « Je vous le dis, en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Là, il reprend les mêmes mots que nous avons dans notre passage ici. C'est-à-dire, en fait, il montre que comment est-ce qu'il va bâtir l'Église, n'est-ce pas? Il dit à Pierre, ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que tu déliras sur la terre, c'est-à-dire ce qui ne sera pas sauvé sur la terre, ne sera pas sauvé dans le ciel. Dans le passage du chapitre 16, il parle au singulier. Chapitre 18, il dit les mêmes choses, mais c'est au pluriel. Il parle à tous les disciples, là. Et donc, il ne peut pas s'agir d'un pape, vous voyez. Non, non, pas du tout. Il n'est pas non plus en train de lui donner un pouvoir de vie et de mort sur quiconque. Ce que certains ont réclamé, et il y a eu des tas de divagations là-dessus. Parce que, dans notre passage, c'est bien clair que c'est Jésus qui bâtit. Sur cette pierre, sur ce rocher, je bâtirai mon Église. Mais il le fait sur le fondement de la vérité à son sujet que Pierre vient de confesser et qui va être annoncé par des hommes régénérés, appelés et envoyés. C'est-à-dire qu'en fait, ici, nous avons l'œuvre de l'Évangile. Et c'est sur cette œuvre de l'Évangile que Jésus bâtit son Église. Cette annonce, par les réactions qu'elle suscite, a un résultat. Quand la puissance de Dieu accompagne la parole, l'annonce de la parole, voilà que c'est lié. Et si la puissance de Dieu n'accompagne pas la parole, alors ça n'est pas lié. Selon le dessein éternel de Dieu, l'œuvre de l'Évangile, basée sur ce que Jésus a fait, et dans la puissance du Saint-Esprit, lie ou délie. Et c'est ainsi que Jésus bâtit. Il y a comment, une union entre Jésus et son Église. Vous voyez, de la même manière que celui qui persécute l'Église persécute Christ, comme Jésus le dira plus tard à Saul de Tarse, de la même manière quand l'Église annonce Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui bâtit l'Église. Alors la question se pose, qu'est-ce que nous avons répondu à l'Évangile? Est-ce que notre réponse montre que nous sommes liés ou déliés, dedans ou dehors, par cette parole selon laquelle Christ est le Sauveur envoyé de Dieu? C'est ça le message, en fait. Le message de l'Évangile, c'est pas qu'il ne faut pas fumer, qu'il ne faut pas ci, qu'il ne faut pas ça, ça c'est peut-être simplement du bon sens. Mais c'est surtout que voilà, là, alors que personne ne peut se sauver, Dieu a envoyé celui qu'il a nommé, qu'il a recouvert de toute sa puissance. Et cette personne accomplit le salut. Alors, c'est une question à se poser. Est-ce que nous confessons, est-ce que nous croyons tout simplement ce que Dieu a dit au sujet de son Fils, ou est-ce qu'on cherche à ajouter à Christ? Et il y a beaucoup de gens qui marchent même dans la vérité et qui cherchent à ajouter à Christ. Il faut faire très attention, parce que ça, c'est notre cœur naturel. Donc, on a vu en premier point, qui dites-vous que je suis? Et cette question nous exige de nous une réponse, et continuellement une réponse, et de vivre dans la puissance de cette réponse. Mais en deuxième point, nous regardons une autre parole de Jésus. Le Fils de l'homme doit souffrir, il doit mourir et ressusciter. Donc nous en arrivons à cette deuxième parole. Comme vous voyez, c'est un découpage assez artificiel, mais il nous faut nous limiter. Jésus vient donc de se révéler ouvertement à ses disciples comme le Christ, le Messie, l'envoyé promis de Dieu pour accomplir le salut de son peuple. Ce qu'on a vu tout à l'heure, cet agneau qui était annoncé depuis même l'Égypte et avant, et qui doit venir et qui sera adoré jusque dans l'éternité. Il leur annonce maintenant comment il va faire cette œuvre de salut. Et c'est quelque chose que nous enseignons continuellement. Donc on ne va pas s'apesantir trop là-dessus, on le voit pratiquement toutes les semaines. Mais faisons simplement quelques remarques ici. Jésus déclare qu'il faut qu'il aille à Jérusalem, et ainsi de suite. Il faut qu'il souffre, il faut qu'il meure, il faut qu'il ressuscite. Il n'y a pas d'autre voie. Et on gagnera beaucoup en assurance si on est véritablement persuadé de cela. Il n'y a pas d'autre voie, comme on va le voir dans un moment. Et il y a beaucoup de gens qui veulent détourner le Christ de cette voie. Mais il fallait qu'il aille à Jérusalem. Est-ce que nous réalisons la terrible réalité du péché et le besoin solennel, le besoin absolu d'un sacrifice pour le péché? Le péché entraîne la mort et il doit y avoir une mort. Et là, on le voit le mieux. Ah, effectivement, c'est en Jésus. Mais là, on le voit aussi très très clairement, c'est que la première mort sur cette terre, c'est Dieu qui a dû l'infliger à cause du péché. Pour couvrir Adam et Ève, il a dû mettre une de ses créatures à mort, au moins. Et donc, il y a péché, le péché entraîne la mort. Il doit y avoir une mort. Et Jésus doit aller à Jérusalem accomplir cette mort. Pourquoi? Premièrement, parce que c'est là que Dieu a placé son nom. Et cette mort doit être faite devant Dieu. C'est Dieu qui est la partie offensée, courroucée, en colère. Si nous péchons contre quelqu'un, cette personne peut être en colère, elle peut être surtout très ennuyée, tout ça. Mais le véritable péché, c'est contre Dieu. C'est Dieu qui est en colère. Et là, à Jérusalem, se trouve le temple. Qu'est-ce que c'est que le temple? C'est l'endroit où Dieu a déclaré qu'il allait faire résider son nom. Et donc, le sacrifice, la mort doit intervenir dans le temple, ou dans ce qui représente le temple. Parce que le temple, à Jérusalem, la présence de Dieu, elle est dans un endroit spécial qui est séparé. Il y a un voile. Vous vous rappelez le voile très épais qui a été déchiré au moment de la mort de Jésus. Eh bien, cela voulait dire que l'accès à Dieu est impossible, interdit. Si quelqu'un passait derrière le temple, derrière le voile, cette personne devait être mise à mort. Ou même, elle pouvait être frappée de Dieu même. Et c'était quelque chose de terrible pour les Juifs. Ils appellent ça l'abomination. Quand il y a eu un homme, quelques siècles avant que Jésus vienne, un homme qui est entré derrière le voile. C'était l'abomination. Et quelqu'un le refera encore un peu après Jésus. Vous voyez, quelque chose de terrible. Il fallait que ce soit à Jérusalem. À Jérusalem aussi se trouvait un endroit particulier. C'était l'endroit où Dieu avait donné un substitut, un remplaçant à Abraham à la place de son fils. Vous vous rappelez l'histoire? Oui? Abraham a emmené Isaac parce que Dieu lui a dit, il faut que tu sacrifies ton fils. Fils unique, le fils que tu aimes. C'était une image, bien sûr. Et Abraham et Isaac sont montés sur une montagne et c'est sur cette montagne que Jérusalem est construite. Donc il faut aller là, il faut que Jésus aille. Là, Abraham a pu épargner son fils. Pourquoi? Parce que Dieu a pourvu un substitut, un agneau pour remplacer, enfin un bélier. Et c'est là que Jésus doit aller. Jérusalem était là où avait régné, il y avait plein d'histoires à Jérusalem, plein de symboles, c'est là où avait régné le seul homme dans toute l'histoire qui avait été à la fois sacrificateur du Dieu Très-Haut et roi, roi de justice. Comment est-ce qu'il s'appelle? Melchisédek. Vous vous rappelez Melchisédek? Il était sacrificateur du Très-Haut et roi, roi de justice. Un seul homme. Là encore, c'était une image. Et Christ vient dans son règne à Jérusalem. À Jérusalem. Et surtout, Jérusalem, c'est la ville de la paix. C'est le sens du mot. La ville de la paix. Et donc, il fallait que Jésus, le prince de la paix, le remplaçant, le substitut, le vrai tabernacle, aille à Jérusalem. Et pourquoi? Pourquoi? Pour souffrir et pour être mis à mort. Parce que Dieu, pour accomplir le salut du peuple, n'a pas fait l'impasse sur sa justice. Il n'a pas mis sa justice de côté. C'est ce qui se passe dans le monde, n'est-ce pas? Avec les hommes. On décide, parce qu'on est un peu fatigué avec la guerre, alors on décide d'oublier les offenses et les griefs. Et souvent, quand il y a une armistice ou une fin de guerre, si les choses ne sont pas réglées, on sait que ça va recommencer. Et effectivement, ça recommence. C'était un homme politique français qui a dit le soir même du premier armistice, en 1918, c'est ça, il a dit « mais ça va recommencer d'ici peu de temps ». Pourquoi? Parce que rien n'était réglé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a recommencé. Mais non, Dieu ne fait pas l'impasse de sa justice, il règle la chose. C'est tout à fait différent avec lui. Il règle le problème du péché, si bien que en Christ, l'agneau de Dieu, le péché est ôté pour quiconque est en Christ. Il fallait que Jésus soit mis à mort. Et ainsi, son peuple, celui que le Père a donné au Fils depuis toute éternité, est dégagé du péché. Il n'y a plus de péché, il n'y a plus de condamnation pour quiconque est en Jésus-Christ. Il fallait qu'il souffre de la part des religieux, de la part de ceux qui fabriquent le salut. Ce sont toujours les ennemis les plus farouches du Fils de Dieu. Toujours. Et quand, par exemple, nous surprenons en nous-mêmes, si nous sommes croyants, à avoir des problèmes avec la simplicité de l'Évangile, c'est pourquoi ? C'est parce que nous voulons retourner dans un registre religieux, à refaire, à fabriquer notre salut. Et rappelons-nous d'une chose, c'est que les religieux ne sont pas nécessairement les autres. Les autres. Si je cherche à fabriquer ou à parfaire mon salut d'une manière ou d'une autre, non seulement je suis capable de mettre Jésus à mort, mais je le mets à mort. Et la question se pose, où est-ce que nous en sommes ? Mais Jésus, nous dit-il, doit aussi ressusciter. Il doit ressusciter. C'est ce qu'il annonce aux disciples là. Et il est certain qu'à l'époque, les apôtres, les douze, n'ont pas enregistré la chose. Ça a été perdu pour eux. Mais Jérusalem n'est pas seulement le lieu du sacrifice, c'est aussi le lieu de la victoire du Sauveur. Et nous entendons ça sur la croix quand il dit « Tout est accompli, c'est fini !» Et donc, il n'était pas possible qu'il soit retenu par la mort. La mort, tout d'un coup, n'était sans force. Et nous pouvons nous poser la question, est-ce que notre foi est biblique ? Est-ce que notre foi est triomphante ? Est-ce que c'est une foi de résurrection ? Et si on lit, par exemple, assez rapidement le livre des Actes des Apôtres, on s'aperçoit que dans la prédication des apôtres, notamment Paul, la résurrection est toujours là. Toujours là. Par exemple, à Jérusalem, il l'entendait prêcher Christ et la résurrection. Christ et la résurrection. Ou bien est-ce que nous avons une foi qui cherche encore à plaire à Dieu par quelques sacrifices? Très important à voir. Donc on a vu la première parole de Jésus qui disait « Qui dites-vous que je suis ?» Et il y a un engagement là. La deuxième parole, « Qui il est et qu'est-ce qu'il fait ?» Il faut qu'il accomplisse l'œuvre du salut sans rien cacher, sans rien mettre de côté. Et c'est véritablement le Sauveur dont nous avons besoin, chacun d'entre nous. Troisième parole, « À Dieu ne plaise !» Ça, c'est ce que Pierre dit ici, parce que Jésus vient d'annoncer ce qui va se passer à Jérusalem. Et le genre de Messie dont Jésus vient de parler ne cadre pas du tout, ou comme disent les Béninois, du tout pas, avec les conceptions de Pierre. Non. L'homme qui vient de confesser avec tant de beauté le Christ, montre finalement qu'il n'est qu'un homme. Et le meilleur des hommes, au mieux, n'est qu'un homme. Et il en est de même avec tout homme. Le meilleur n'est qu'un homme. Mais Pierre, dans sa reprise du Seigneur, parce que là, en fait, il reprend le Seigneur. Mais non, Seigneur, ça ne va pas t'arriver. Alors que Jésus a dit, mais voilà ce qui va se passer. Eh bien, Pierre se fait le porte-parole du diable lui-même. Du diable lui-même. Et il y a plusieurs leçons pour nous ici. La première, et c'est une leçon qu'on a vraiment besoin d'intégrer continuellement. Le meilleur disciple est capable du pire. Pierre est toujours celui qui est cité en premier. Et même des fois, il est ajouté le premier, Pierre. Il est capable du pire. Celui qui a été le porte-parole de Dieu lui-même, prononçant les mots même que Dieu lui a inspirés, maintenant, il se fait l'outil du diable. En quoi ? Imaginons 10 minutes, maximum, pas plus, certainement moins. Et la seule chose que Satan cherche à faire, écoutez bien, c'est de détourner Jésus de la croix. S'il peut détourner Jésus de la croix, il a gagné. Il a gagné. Nous pouvons facilement voir cela dans les tentations du Seigneur, hein, où le diable cherche justement à ce que Jésus essaye de se révéler par autre chose que par la croix. Et on le voit ici dans cette altercation entre le diable et Jésus. Mais il nous faut nous poser la question de savoir ce qu'il en est de nous. Chaque fois que nous voulons faire l'économie de la croix, chaque fois que nous voulons amener quelque chose de plus que la croix, nous faisons le jeu du diable. Chaque fois que quand je parle au sujet de Jésus à quelqu'un et que je tais ou je radoucis la croix, je fais l'œuvre du diable. C'est chercher à entrer par une autre voie. C'est être au service du voleur. Hein? Jésus a dit que ceux qui entrent dans la bergerie par un autre endroit que la porte, ce sont des voleurs. Et un de ces jours, je pense, vous allez peut-être commencer à lire le voyage du pèlerin, si ce n'est pas déjà fait. Eh bien, il y a ceux qui sont sur le chemin. Tout d'un coup, ils voient des gens qui sont en train d'escalader un mur. Ils entrent par un autre endroit. C'est cela. Comment cela peut-il se faire? Eh bien, c'est simplement remplacer l'annonce de l'œuvre de Christ par autre chose. On peut remplacer ça par le service, par les œuvres, par toutes sortes de choses, et cela peut revêtir toutes sortes de formes. Oui, bien sûr. On continue d'annoncer l'Évangile, en partie tout au moins, mais l'accent est porté sur autre chose. Très, très souvent, je rencontre ça en Afrique. Quand on commence à parler un peu trop précisément de l'Évangile et de ce que l'Évangile exige, comme réponse, ce que nous avons vu dans la première partie, on me parle tout de suite de quelle église à laquelle on appartient. On s'est détourné de l'Évangile. L'Église ne sauve pas. Pas du tout. Bon, ça, c'était simplement un exemple, mais vous comprenez de quoi je parle. Il y a un autre mot dans la réponse de Christ, ici, qui nous enseigne quelque chose d'important. Parce qu'ici, Pierre cherche à détourner Christ de la croix, et Satan à travers Pierre. Mais regardez, le Seigneur, quand il reprend Pierre, il lui dit « Arrière !»« Arrière de moi !» Et pourtant, on a vu que le disciple a pris Jésus par le bras. Il le met de côté, il le prend à part, n'est-ce pas? Mais Jésus lui dit « Arrière !» parce que le disciple est passé devant le maître. Christ est bien, oui, mais pour finir, il ne suffit pas. Et ça, nous avons l'hérésie des Galates, l'hérésie des Colossiens, mais surtout les Galates. Oui, Christ est bien, mais il faut ajouter à Christ. Non, absolument pas. Il y a même des gens, une fois, qui ont dit, mais oui, ce Christ que vous annoncez, il est bien, mais il est un peu réductionniste. Il faut le développer. Et quand on les écoute le développer, on s'aperçoit assez rapidement, des gens très sincères et probablement même des frères, on s'aperçoit très très rapidement qu'il n'est pas développé du tout. Il est complètement transformé. Mais non, il ne faut pas aller plus loin, parce que dès que quelqu'un va plus loin que Christ, et ce Christ qui est annoncé dans l'Évangile, le Christ en croix, Jésus-Christ crucifié, alors on détruit la grâce et on introduit les œuvres. Une autre leçon à souligner ici se voit dans la violence ou la force de la réponse de Jésus. Jésus répond d'une façon très ferme, « Arrière de moi, Satan !» Et vous imaginez, voilà son meilleur disciple, on pourrait dire presque, et il le traite de Satan. Et il répond vraiment durement, enfin très, très fortement tout au moins, « La tentation du diable au travers de ce cher disciple » est une terrible blessure pour Christ. Et on se rappelle, par exemple, après les tentations, le Seigneur est là et les anges lui ont amené à manger. Ce n'était pas simplement parce qu'il y avait 40 jours qu'il jeûnait, mais les tentations l'avaient complètement épuisé. Toute tentation d'ajouter à Christ ou d'aller plus loin que Christ est très dommageable au corps de Christ. Et cette hérésie des premiers siècles qui voulait ajouter à Christ a presque mis à mort l'Église. Et ça n'est que parce que Dieu est là que l'Église n'a pas été totalement détruite. Et il faut, cela exige une réaction vive, forte et sans équivoque. Et c'est important pour nous de voir cela. L'esprit religieux dira, bon, on va discuter la chose, ça se négocie, n'est-ce pas? Ne faisons pas les choses en public. On va, alors vous voyez, Pierre, il prend le Seigneur à part. On va laisser les autres dans leur ignorance. Toi et moi, on se comprend, n'est-ce pas? Non, non, mes amis, on voit la même chose quand Paul reprend Pierre dans la Galatie. Pierre est allé plus loin que Christ, là. Il commençait à ramener la loi, le judaïsme. Et Paul, il se lève devant Pierre et devant tout le monde. Il le reprend. Il le reprend. Ce grand apôtre. Non, non. Le travail du diable mérite la réaction la plus vive et la plus catégorique, arrière. Et c'est publiquement, mais aussi personnellement. Si nous voyons le diable venir en nous, ou venir nous tenter, cette image de Christ qui se forme en nous, n'est-ce pas? Eh bien, il faut être énergique. Ça n'est pas simplement, bon, tu me laisses tranquille, s'il te plaît? Non, non, arrière de moi. Et puis, maintenant, Jésus commence à montrer comment le disciple vit en tant que disciple. Parce que le disciple, ce n'est pas simplement quelqu'un qui est là et qui est comme un mouton. Le disciple est une brebis, et pas un mouton. Comment est-ce qu'il doit vivre en tant que disciple? C'est ce que nous avons à la fin de notre passage, verset 4. Regardez. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, ça c'est la définition du disciple, eh bien il y a certaines choses qu'il faut faire. Il y a certaines choses qui doivent se passer. » Première chose, parce qu'il y a plusieurs points à souligner là, qu'il renonce à soi. Voilà un homme qui ne doit plus être gouverné par ce qu'il pense, par ce qu'il croit ou par ce qu'il estime être juste. Qu'est-ce qui doit le gouverner? Ce que le maître dit. Et encore aujourd'hui, on voit, il y a maître et disciple, ou on appelle ça peut-être des gourous. Mais on sait, quand on écoute le disciple, on sait exactement de quel maître il vient. Exactement. Pourquoi? Parce qu'il répète ce que le maître dit. Et on serait presque tenté de dire qu'il n'y a que dans l'Église évangélique qu'on ne voit plus ça. Il est disciple. Il est là pour apprendre, parce qu'il ne sait pas. Celui qui sait, il est maître. Et je me rappelle, pour illustrer cela, je me rappelle... Par exemple, un jour, juste après une conférence qui était faite pour ce cours où il y a des étudiants, hein, alors il y avait un des étudiants qui commençait à nous enseigner tous certaines choses au sujet de ce que lui avait compris au niveau de l'Évangile. Alors, quand les professeurs sont venus, il lui a dit « Non, ça n'est pas ça, pas du tout. » Alors, il a commencé à enseigner les professeurs. Alors, les professeurs se sont un tout petit peu fâchés. Fermement tout au moins, en lui disant « Non, non, mais attends, si nous voulons apprendre, nous ne venons pas à ce cours. Mais toi, si tu viens à ce cours, tu viens pour apprendre. » Alors le monsieur ne voulait pas apprendre et donc il a cessé d'être étudiant. Mais le disciple doit apprendre et il apprend en regardant et en entendant et en répétant ce que le maître dit. Et la chose n'est pas automatique. Il faut s'efforcer. Ici, il dit qu'il renonce à lui-même. Ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça. Non, non. Il faut mettre à mort ce moi qui est si présent. Il faut qu'on lui dise à lui aussi, arrière, arrière. Et Jésus dit qu'il renonce à soi. C'est-à-dire que ce que je pense ne doit pas avoir la primauté. Qu'est-ce que Jésus dit ? On a souvent parlé, hein, les gens qui disent dans les discussions, « Mais qu'est-ce que tu penses de telle chose ? » Et la réponse, mais ce que je pense n'est pas très important. Que dit la Bible? Que dit le Seigneur? La deuxième chose qu'il dit, que Jésus dit ici, c'est qu'il se charge de sa croix. Et il ne s'agit pas ici de faire face aux difficultés de la vie. La vie est difficile dans ce monde qui est un monde pourri. Et voilà, donc on a notre croix, on va la subir, on va la supporter. Non, non. De quoi est-ce que Jésus parle? Il parle de s'engager dans le sentier qui mène à la mort. C'est ce que lui fait. Quand il se charge de sa croix, il va monter sur cette colline et il n'en redescendra pas de ses propres forces. Pourquoi? Parce qu'il serait mort. Cela se passe quand un homme renonce à trouver le salut par ses œuvres et qu'il se repose entièrement sur Christ. Il se charge de sa croix. Parce que dans sa tête, s'il cherche à se sauver par ses œuvres, c'est parce qu'il peut se sauver. Mais là, il dit non. Et en fait, il dit, mais je meurs. Mais il trouve la vie en Christ. Il se repose entièrement sur Christ. Comme le dit Paul plus tard, je suis crucifié pour le monde. C'est-à-dire que maintenant, le monde et sa chair dans le monde n'ont plus d'appel sur lui, n'ont plus d'autorité. Et la chair est incapable de faire cela. Il faut toute la puissance de Dieu. Cela se produit aussi, ce renoncement à soi, ce chargement de sa croix, ça se produit aussi lorsque le croyant décide de ne plus avoir de pensée pour penser quoi que ce soit si ce n'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et ça, c'est très très difficile, très difficile, parce qu'on a des tas d'idées, on a des tas de pensées. Et puis, si nous parlons de Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié seulement, alors pour les uns, c'est une folie. Aujourd'hui, les gens disent, mais c'est quoi ça? N'est-ce pas? C'était ainsi à l'époque de Jésus, à l'époque de Paul. C'est un scandale pour les autres. Et aujourd'hui, de plus en plus, les gens disent, mais votre christianisme, c'est un scandale. Regardez, vous croyez toutes ces choses, ça veut dire que les autres ont tort, par exemple, et ainsi de suite. Non, c'est très, très difficile. C'est une folie, c'est un scandale. Et c'est pour ça qu'il faut toute la puissance de la nouvelle vie de Dieu dans le cœur, parce que pour ceux qui croient, c'est la dynamite de Dieu, la puissance de Dieu pour le peuple de Dieu. Celui qui veut sauver sa vie, qu'est-ce qui se passe? Il la perd. En effet, s'il veut sauver sa vie, il se détourne de la voie de Christ. Il rejette les pensées de Dieu pour adopter les pensées des hommes. Et là, il n'y a pas de salut. Aucun salut dans cette voie. Donc il veut sauver sa vie, et en fait il la perd. Il n'y a rien de plus précieux que le salut de son âme. Qu'est-ce qu'un homme donnera pour son âme? Pratiquement tout, n'est-ce pas? Il est prêt à tout donner. Et on a vu des gens qui étaient sur leur lit de mort, des gens qui avaient des possessions au-delà de toute imagination, des riches et tout ça. Qu'est-ce que c'était pour eux? Qu'est-ce que c'était? Plus rien. Plus rien. Non, non. Il n'y a rien de plus précieux que le salut de son âme. Ça n'est pas une question de sauver sa peau seulement. Il y a beaucoup de, entre guillemets, chrétiens aujourd'hui qui sont simplement chrétiens parce qu'ils ne veulent pas aller en enfer. Mais ça n'est pas cela, être chrétien. Être chrétien, c'est être en union avec Christ. Et c'est cela le règne de Christ. Et c'est ce qui est venu à la Pentecôte. C'est ainsi que Jésus peut dire, il y en a qui sont ici, qui ne mourront pas avant d'avoir vu ce jour. Et c'est pour cela, donc, que Jésus dit toutes ces choses. Il vient et il est là. Et on parle de lui. Mais qu'est-ce qu'on dit de lui? Est-ce qu'on dit simplement des choses sur des oui-dire? Oui, oui, je crois en Jésus parce que mes parents croient en Jésus. Oui, oui, je crois en Jésus parce que bon, ça me semble assez correct et tout ça. Non. Est-ce qu'on l'a rencontré? Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Ça demande vraiment qu'on sorte du rang, n'est-ce pas? Et ce n'est pas quelque chose qui vient avec la puissance de l'homme. Il faut la puissance de Dieu. Et cela, est simplement accessible parce que Christ est allé à Jérusalem. Il le fallait. Il fallait qu'il règle ce péché. Ouvre la porte pour Christ, pour Dieu, pour que Dieu puisse se réconcilier par le sang de sa croix. Et maintenant, on ne peut pas enlever la croix. La croix est absolument centrale, même pour Dieu lui-même, surtout pour Dieu, on dira. Et celui qui suit, il suit le chemin de la croix aussi. Renoncer à lui-même, porter sa croix, annoncer la croix. Que le Seigneur nous donne la force, la puissance spirituelle, la sagesse de Christ pour marcher dans cette voie. Amen.